recherche coupable.
Dans le coffre du véhicule, les enquêteurs découvrent un corps calciné, celui de Marie-Michèle Calvez de Plonéau-Lanverne, identifié grâce à ses empreintes dentaires.
Un mystère vieux de bientôt 30 ans. Qui a tué Marie-Michèle Calvez ? Marie, pour sa famille, une démarcheuse en assurance de 40 ans, dans la nuit du 21 au 22 septembre 1994 à Plounéour-Lanverne. Cette petite commune du pays Bigoudin, dans le Finistère, comptait moins de 5000 habitants au moment des faits. Autrement dit, tout le monde se connaît. Et beaucoup connaissent Marie-Michèle, une enfant du pays, qui sillonnait le secteur du Guilvinec pour le compte de l'UAP. Mais dans le pays Bigoudin, les langues ne se délient pas facilement. Et les conversations sont parfois aussi brèves que des volets qu'on ferme. Je suis Pierrick Baudet. Et vous écoutez Recherche coupable. Pour résoudre cette affaire criminelle, les enquêteurs disposent de quelques éléments matériels, de témoignages. Certains gendarmes ont même pensé un temps approcher la vérité. Mais au bout du compte, pas une seule personne n'aura été mise en examen ou placée en détention provisoire. Il y a maintenant plus de 29 ans que les juges d'instruction successifs et les enquêteurs se heurtent à cette affaire. Depuis un an, elle a été transmise au pôle des affaires irrésolues à Nanterre. Une nouvelle juge d'instruction a donc repris le dossier en main, mais le temps presse. L'un des principaux suspects, à la fin des années 90, est désormais décédé. L'affaire débute le 22 septembre 1994, vers 3h du matin. Au lieu dit Poulguin, à mi-chemin entre le Guilvinec et Pinmar, des marins-pêcheurs aperçoivent une voiture en feu près d'une ancienne conserverie. Il s'agit d'une Seat Ibiza, à l'intérieur de laquelle se trouve un corps, celui de la propriétaire du véhicule, Marie-Michèle Calvez. La victime réside à une douzaine de kilomètres un peu plus au nord, allée des Hortensias à Plounéour-Lanverne. Le lieu de l'incendie n'a pas été choisi au hasard. Il est isolé. Michel Alize, ancien capitaine de gendarmerie à la section de recherche de Rennes, le connaît bien. Il était l'un des premiers sur les lieux et il a enquêté durant plusieurs années sur cette affaire.
La section recherche est saisie immédiatement dans le cours de la nuit, où on intervient dans la foulée, le temps de descendre de Rennes sur le Guilvinec. Hein. Donc à 7h30 le jeudi 22 septembre 1994, nous sommes sur place. Et les pompiers sont d'ailleurs sur place encore à notre arrivée. Il est évident que les auteurs des faits connaissaient ce lieu, puisque le lieu où était déposée la voiture pour l'incendier, la voiture de Marie-Michèle, se trouve derrière une ancienne usine désaffectée, hein, en bordure de mer, à Pinmar, une zone quasi désertique où il n'y a aux alentours qu'une seule maison à proximité très immédiate. Donc un endroit isolé, donc en évidence, on peut penser que les types connaissaient le lieu, la zone, et savaient très bien qu'il y avait peu de risques de rencontres inopinées lors de la dépose de la voiture.
Ce lieu isolé, toutefois, n'est pas totalement à l'abri des regards, ou plutôt des oreilles. Une voisine, cette nuit-là, qui ne trouvait pas le sommeil, entend non pas une, mais deux voitures arriver peu avant 3h du matin. Des portes qui claquent et des voix qui chuchotent. Probablement celle des tueurs de Marie-Michèle Calvez, car pour amener deux véhicules sur place, il fallait au moins être deux.
Cette personne-là, elle avait un sommeil difficile, elle fumait énormément, et donc elle était en couple, hein, elle dormait avec son mari, mais qui lui avait un sommeil très très profond. Et cette dame, alors qu'elle lit et fume dans son lit, entend un premier véhicule. Puis, alors, entend un premier véhicule arriver, mais ça ne lui pose pas de soucis. Elle entend un premier véhicule, et ensuite elle entend un second véhicule, et elle entend plusieurs portes claquer. Elle entend au moins deux portes, si mes souvenirs sont bons, claquer. Donc, on peut imaginer que la voiture, elle a entendu la voiture arriver, elle a entendu un bruit par la suite, elle a entendu des portes claquer et un véhicule partant. Donc on peut imaginer qu'elle entend le véhicule arriver, qu'elle entend le véhicule partant avec le ou les auteurs, ou les auteurs plutôt, puisqu'il y a au moins deux portes qui claquent, et qui quitte les lieux en direction de Pinmar. Mais on récupère ce témoignage plusieurs jours avant les faits, parce que elle dort mal, elle devait sans doute prendre quelques médicaments pour le sommeil, et puis elle a pas senti le besoin de le dire aux gendarmes, puisque les gendarmes qui avaient fait le porte-à-porte l'avaient rencontré, bien évidemment. Mais pour elle, ce n'était pas un fait important. C'est la relance des enquêteurs qui a fait qu'on a eu ce témoignage.
En attendant de recueillir ce témoignage, les gendarmes ont essayé de reconstituer le plus précisément possible l'emploi du temps de Marie-Michèle Calvez, notamment sa dernière journée, le 21 septembre 1994. Après avoir passé la nuit chez son compagnon, un médecin des environs qu'elle avait rencontré quelques mois auparavant, l'assureuse de l'UAP vaque à ses occupations professionnelles. Une excellente pro. Ses concurrents la redoutaient et préféraient être passés chez les clients avant elle plutôt qu'après, faute de voir le contrat leur passer sous le nez. À midi, elle avait déjeuné dans un hôtel-restaurant du Guilvinec. En fin de journée, elle avait vu son dernier client, un marin-pêcheur, vers 18h. Puis elle était repassée chez elle, à la fois pour consulter les messages sur son répondeur, sa maison lui servant de bureau, et à la fois pour nourrir et rentrer son chien, Zigomar. Car si elle ne le rentrait pas, l'animal pouvait se mettre à aboyer et à déranger le voisinage. Or ce soir-là, Marie-Michèle avait justement prévu de ressortir. Elle avait rendez-vous à 20h chez un ami peintre à qui elle avait commandé un tableau et chez qui elle devait retrouver son compagnon. Mais cette femme enjouée, entreprenante, ne se rendra jamais chez le peintre. Plus surprenant, son compagnon ne semble pas s'être inquiété de son absence. Si Marie-Michèle avait pris l'habitude de dormir chez lui, elle avait néanmoins conservé sa maison distante d'un kilomètre et demi. Or, malgré l'absence de sa compagne, ce médecin n'aurait pas appelé chez elle le soir même pour avoir quelques nouvelles.
Michel Couic, bien évidemment, son compagnon de l'époque, a été un des suspects posés sur la liste des orientations, de nos orientations de travail, ce qui est tout à fait légitime. Alors, Marie-Michèle était en couple avec Michel Couic depuis quelques mois. Une cohabitation qui visiblement se passait bien, bah avec des soucis aussi de couple, hein, tel qu'on peut connaître, hein, avec peut-être des périodes un peu houleuses, mais sans plus. Le fait est qu'ils étaient ensemble, qu'ils vivaient dans la même maison, et que surtout, Marie-Michèle avait changé ses habitudes depuis... quelques semaines, voire quelques mois, où elle s'y rendait tous les soirs. Donc on pouvait penser que la cohabitation était normale en termes de couple. Cependant, l'attitude de Michel Couic de cette nuit-là nous a un peu interrogés. Nous, enquêteurs, on dit, comment se fait-il qu'un homme qui attend son ami ne s'inquiète pas de l'avoir rentré ce soir-là, alors qu'ils avaient de plus un rendez-vous ce soir-là. Et puis lui, bah, la réaction qu'il nous donne, il dit, bah oui, on est en couple, certes, mais il était prévu qu'elle rentre hier soir, certes, mais elle n'est pas rentrée, je ne me suis pas inquiété, j'ai pensé qu'elle se trouvait chez elle. Alors, bien sûr, à l'époque des faits, on a vérifié tous ses dires, on a vérifié aussi la téléphonie, il faut remettre ça dans le contexte de 94, où Il était équipé, on a eu la chance à cette époque-là, étant médecin, il était équipé d'un Radiocom 2000. Bon, en traçabilité, c'était pas non plus le top, mais c'était bien mieux que la téléphonie classique de France Télécom, puisqu'on avait plus d'éléments sur la traçabilité. Le fait est que ce soir-là, cette nuit-là, on n'a pas trouvé de communication ou d'appel rentrant ou sortant sur cet appareil, et on n'a pas pu déterminer qu'il soit sorti non plus de son domicile. Le véhicule, lorsque les gendarmes interviennent au petit matin, le premier réflexe qu'ils ont eu à faire, c'était de vérifier si déjà le capot moteur et puis le moteur étaient plus ou moins chauds, voire chauds, ce qui n'était pas le cas. Donc là, le véhicule, on a la certitude au regard des constatations réalisées par les collègues qui sont intervenus le matin, que le véhicule n'avait pas bougé. C'était une Peugeot 405 ou un truc comme ça. Donc ce véhicule-là, aux constatations, n'avait pas bougé. Cependant, l'interrogation s'est toujours portée sur le fait qu'il n'ait pas réagi, qu'il ne soit même pas déplacé jusqu'à Plaignan-l'Anverne, qui était un kilomètre et demi. Quoi. Mais Michel Couic, médecin, était un homme, entre guillemets, un vieux célibataire, qui vivait un peu dans sa campagne, en dehors de son travail, et puis très solitaire. Très solitaire. Donc quelque part, dans l'environnement, aux interrogations posées, ça n'a pas choqué son environnement.
Mais après des perquisitions chez son compagnon et plusieurs auditions, rien ne sera retenu contre lui. L'enquête doit s'orienter vers d'autres pistes. La piste professionnelle alors est également explorée avec minutie. Pourrait-il s'agir d'un concurrent, d'un client ?
Marie-Michel était chez UAP et à la branche prévoyance. Alors, c'était un secteur très porteur à l'époque, puisqu'elle couvrait les indemnités de perte de travail au niveau des marins-pêcheurs. Alors, c'était spécifique un peu au domaine de la pêche. Et l'UAP avait un produit très riche. Gagne les témoins. Mais il était un gros concurrent sur la place, puisque le groupe GAN était en place avant l'UAP sur le secteur. Et Marie-Michel, son équipe a été créée, elle a fait carton plein dès la deuxième année. Elle était dans les 10 premières au point de vue national, je crois, de mémoire. Et l'équipe de 5-6 personnels, là, marchait très très fort, avait des produits d'appel qui étaient très très bons. Oui, il y avait de la concurrence, donc l'orientation GAN nous a demandé beaucoup de travail, hein, puisqu'on a vérifié la totalité des produits qui ont été vendus à l'époque, hein, du côté UAP et du côté GAN. Et puis ça nous a amené à placer en garde à vue toute l'équipe GAN, pour vérifier les emplois du temps, les incidents, les contrats établis, les contrats dérobés, entre guillemets, par l'UAP. Il y avait de nombreux contrats, c'était relativement conséquent. Donc ce qui aurait pu justifier des soucis entre l'équipe, voire des règlements de compte, quoi. Mais ce volet concurrentiel a été vérifié, creusé. On a fermé la porte de cette orientation.
Lors de la perquisition de la maison de Marie-Michel, les gendarmes avaient également relevé des éléments troublants, notamment ce tube de dentifrice entamé, posé sur un meuble du rez-de-chaussée alors que la salle de bain se trouvait à l'étage. La quadragénaire a-t-elle été surprise par la visite d'un individu alors qu'elle se préparait à se rendre à son rendez-vous ? Catherine Calvez, la sœur cadette de Marie-Michel, avait évoqué cet élément en 2022 lors de l'émission « L'heure du crime » sur RTL, animée par Jean-Alphonse Richard.
Marie était très, très, très ordonnée, quasi maniaque. La salle de bain était en haut, et donc quand je suis rentrée dans la cuisine, ce tube de dentifrice sur le buffet m'a sauté aux yeux. Oui.
Il n'avait rien à faire là.
Ah ben non. Non, c'était un tube de dentifrice entamé, donc si ça avait été un tube de dentifrice, je l'ai dit souvent, neuf, elle rentre des courses, elle le pose, elle oublie de le monter... Ok, mais bon, là, pas un tube entamé, quoi. Qu'est-ce que ça n'a rien à faire dans une cuisine.
Est-ce que Marie-Michel avait l'habitude d'ouvrir la porte comme ça ou en tout cas, je crois que c'est Maître Seban, votre avocat, qui nous disait tout à l'heure qu'elle ne fermait pas forcément toujours la porte. Mais est-ce qu'elle était méfiante ou
elle... Non, elle n'était pas méfiante du tout, non. Hmm. Non, non. Elle laissait sa porte ouverte. Bon, faut dire que bon, Plonéour, c'est pas la jungle non plus. Hein. C'est un petit bourg.
Tout le monde se connaît.
Ça fait presque 28 ans. C'est un petit quartier hyper tranquille. Non, on fermait pas notre porte, non.
Autre élément troublant. Un véhicule marron est aperçu vers minuit devant la maison de la victime, alors qu'il y a de la lumière chez elle. Malheureusement, ce véhicule ne sera jamais retrouvé.
À minuit 10, alors qu'un monsieur, un pompiste de Plonéon-Larverne, promène son chien, il a remarqué un véhicule, parce qu'il fait le tour du quartier. Il fait le tour du quartier avec son chien, un gros chien, et tranquillement, c'est un petit bonhomme qui se promène à pas lents, et il fait le tour du quartier, et lorsqu'il passe, il arrive devant chez Marie-Michel, il y a de la lumière chez elle, et un véhicule stationné sur le trottoir d'en face. Dans un sens bien précis, un sens qui nous explique, il nous décrit un format de véhicule. Un format de véhicule, il nous donne la couleur, marron, ça c'est constant. Et il nous explique également que sur la lunette arrière présente des autocollants. Il est incapable de nous donner l'immatriculation, mais il y avait des similitudes dans les chiffres ou dans les lettres. Donc ça c'est le témoignage qu'il nous donne. Lui aussi, il nous arrive 3 mois après les faits. Pourquoi ? Parce que le lendemain ou le surlendemain des faits, lui part en vacances et donc il revient un mois après. Et comme c'est pas le gars très causant, comme beaucoup de gens sur le pays bigoudin, on a l'information que quasiment 3 mois après. Lorsque les faits sont produits, nous on a travaillé énormément sur le pays du Guilvinec. Toute la bande côtière, Pamar, le lieu de l'incendie, la zone où Marie-Michel travaillait. Hormis le gros travail d'environnement immédiat qu'on a fait autour de chez Marie-Michel, sur Plonéour-Larverne, on y a travaillé beaucoup moins. Donc, ce type-là, ce témoin, on aurait pu le retrouver avant. Si. Mais avec des si. Là, on avait des orientations de travail. Lui, il s'est présenté 3 mois après. On a exploité à fond son témoignage. Hein, Et donc, on a travaillé sur des véhicules, puisque la synthèse de ce qu'il nous avait rapporté pouvait nous diriger sur une Peugeot. Une Peugeot... 305 de mémoire, 305 marron. Donc on avait épluché la préfecture manuellement, hein, et on avait à l'époque vérifié près de 700 voitures sur pièce, donc sans résultat.
Pour Maître Didier Seban, avocat de la famille Calvez, cette affaire de véhicule marron reste tout de même à éclaircir. Il témoigne au micro de notre consoeur Anna Elbert.
Les fouilles à son domicile, si elles ont été faites assez vite, je crois, hein, donc on a récupéré des choses. L'élément sur lequel on a un doute, c'est est-ce que finalement elle a vu quelqu'un à son domicile, compte tenu de la présence de ces deux véhicules, la présence de cette vaisselle dans la cuisine, la présence de ces éléments, et si elle a vu quelqu'un, c'est peut-être ce quelqu'un qui est à l'origine de sa mort. Donc, c'est ce qu'il faudrait identifier, peut-être au travers des objets qui ont été recueillis à son domicile. Et puis, le deuxième élément, c'est est-ce que, au fond, il s'agit de deux véhicules. Il y a bien eu deux véhicules, puisqu'on la retrouve dans sa voiture brûlée. Donc, est-ce que elle a été tuée quelque part et transportée avec son véhicule? C'est une possibilité, mais ça veut dire que le ou les auteurs sont repartis avec une autre voiture. On est quand même dans un lieu assez isolé, pas tout à fait loin du village. On peut le faire à pied, mais on est en pleine nuit. Donc ça voudrait dire que, comme l'a dit un témoin, même imprécis, il y a pu y avoir un deuxième véhicule. Quel est ce deuxième véhicule? Est-ce que c'est le véhicule marron qu'on a vu devant la résidence de Madame Calvez? C'est une énigme à résoudre. On ne sait pas où elle a été tuée. On sait juste qu'elle est retrouvée morte dans ce véhicule, mais Est-ce qu'elle a été tuée dans le véhicule ? Évidemment, on n'a pas le moyen de... Avant que celui-ci soit brûlé, on n'a pas le moyen de le vérifier aujourd'hui.
L'enquête patine, oui et non, durant les quatre premières années. C'est durant cette période, d'ailleurs, que les gendarmes ont cru approcher la vérité. Au printemps 96, ils interrogent en garde à vue Max, un voisin de Marie-Michel. Ces deux-là se connaissent depuis longtemps. Lui est marin d'État, séparé, porté sur la boisson et ayant pu être violent avec sa précédente compagne. Mais il fut aussi le confident de Marie-Michel lorsque tous les deux étaient célibataires et qu'ils passaient leur dimanche soir autour de soirées pizza. Or ce voisin, réentendu un an et demi après le meurtre, lâche du bout des lèvres que ce soir-là, il a bien vu Marie-Michel, contrairement à ce qu'il avait dit aux enquêteurs aussitôt après les faits. Mais sa garde à vue ne se déroule pas normalement. Alors qu'il venait de dire aux gendarmes « Je vais vous expliquer, il est pris de forts tremblements et doit être hospitalisé quelques jours. »
Oui, Max, sujet important dans l'enquête. Ami d'enfance de Marie-Michel, d'enfance, hein, tout petit, hein, il était voisin d'une centaine de mètres dans la même rue, la rue des Hortensias. Marie-Michel a un bout et Max a l'autre bout. Et Max est vu le lendemain, il est vu le 22 septembre 1994 dans le cadre du porte-à-porte, puisque c'est le terme qu'on employait dans le cadre des investigations à cette époque-là. Dans le cadre de la porte à porte, il y a une équipe de gendarmes qui le voit et qui lui demande s'il avait vu Marie-Michel la veille, et puisqu'il était au courant du drame, vu par les gendarmes. Et puis, son premier témoignage qu'il donne aux gendarmes, pas vu. J'ai pas vu Marie-Michel ces derniers jours. Point. Cette garde à vue qui restera historique, hein, pour moi et pour mes collègues, hein, et magistrats également, hein, parce qu'on l'amène. On l'amène sur le terrain du 21 au soir, aux environs 19h. Donc 19h important, puisque nous on a calé au préalable au cours de ces un an et demi de travail, presque deux ans, que Marie-Michel est rentrée à Pleuny-en-Lanverne à son domicile. Vers 19h, la porte est fermée, elle est rentrée, son véhicule était là, et elle est rentrée chez elle, c'est une certitude. Et on amène Max dans la maison d'en face de chez Marie-Michel. Pourquoi la maison d'en face ? C'est la maison de ses parents. Et Max entretenait cette maison, ainsi que le jardin. Donc on est au mois de septembre, et il y a la pelouse à tomber. Et Max nous déclare que ce soir-là, il a tendu la pelouse. En face, il y a la rue à traverser. On est dans un bourg. Il y a la rue des Hortensias. Le jardin est surélevé. On domine le pas de la porte, mais le pas de la porte du garage de chez Marie-Michel. Et donc, il tond la pelouse avec une tondeuse électrique, avec un fil qui est branché au sous-sol, où il faut faire le tour de la maison une fois et le reprendre dans l'autre sens. Donc, vous passez, vous repassez. Et donc Max, il tond sa pelouse. Et à cette deuxième audition de garde à vue, Max nous reconnaît avoir vu Marie-Michel le 21 au soir, aux environs de 19h20. De là, on se dit, on a franchi un pas. Et on l'amène, il nous amène, parce qu'on ne l'amène pas, il nous amène, il nous déclare s'être déplacé de la maison de ses parents, avoir traversé la rue et être venu sur le pas de la porte du garage de chez Marie-Michel. C'est une porte de garage coulissante, plastique, et Marie-Michel est là. Et là, il nous pète les plombs encore une autre fois. Et là, il nous dit, je vais vous expliquer. Donc la même attitude qu'il avait eue à la première audition. Puis là, il nous dit, non, je ne l'ai pas vu. Je vais tout vous réexpliquer. Je ne l'ai pas vu ce 21 au soir. Nouveau changement. Et là, on en reste là. Et là, on est bloqué.
Face à ce blocage et à ce nouveau revirement dans les déclarations du suspect, le magistrat décide de suspendre la garde à vue qui, de toute manière, arrivait à son terme. C'est donc Michel Alize qui qui raccompagne Max chez lui.
À la fin d'une garde à vue, la tradition et les usages de la section recherche, c'était pas de laisser quelqu'un au pied de la porte de la gendarmerie. Non, on reconduisait quand les conditions le permettaient. Et là, on plie, on ferme la garde à vue, on clôt le tout, et on le reconduit à Pleineur-l'Anverne. Et à Pleineur-l'Anverne, donc en arrivant devant la maison, c'est moi qui suis au volant, je lui demande, mais elle était comment la voiture ? C'est un sujet sur lequel on n'avait pas abordé de la garde à vue. Il dit, le véhicule était là. Et il donne le bon sens du stationnement et le bon endroit où le stationnement était garé. Et le comble, comme il ne sort pas du véhicule, je dis, Max, tu peux y aller. Il ne sort pas. Il était persuadé qu'on le conduisait à la prison.
Autrement dit, si Max avait vu la voiture de Marie-Michel et pouvait situer précisément où elle était garée ce soir-là, c'est très probablement qu'il avait aussi vu la victime. Mais après discussion avec le magistrat instructeur, cette conversation informelle entre le gendarme et Max ne sera jamais consignée dans un procès-verbal. Et ce voisin ne sera plus inquiété ni mis en examen. Durant plusieurs années, l'enquête ne va ensuite pas progresser. Maître Didier Seban explique comment de tels dossiers finissent par se retrouver sous la pile des nouvelles affaires, notamment si les familles ne se battent pas pour obtenir de nouvelles investigations.
Il y a toujours plusieurs éléments, je ne mets en cause personne. Il y a un premier élément souvent qui est effectivement qu'au départ on a des enquêteurs, parce que l'affaire crée... de l'émotion, et puis très vite, une affaire recouvrant l'autre, on n'a plus d'enquêteurs sur l'affaire. La deuxième chose, c'est que ce qu'on appelle chez les policiers, les gendarmes, un effet tunnel, c'est-à-dire qu'ils ont une conviction à un moment donné, la conviction de la mise en cause de cet homme, et ils restent sur cette conviction et ils ne vont pas plus loin en termes de recherche. Vous voyez, par exemple, le seul domicile qui a été perquisitionné, c'est celui de cet homme. Ça n'est pas celui du compagnon de Marie-Michel Calvez. Donc pourquoi ne l'a-t-on pas fait à l'époque ? Parce qu'on avait une orientation, un effet tunnel de l'enquête. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on manque cruellement d'enquêteurs dans les affaires criminelles. C'est terrible. Les enquêteurs nous disent qu'ils sont tout le temps mobilisés sur des sujets nouveaux, sur un trafic de stupéfiants ici, sur un braquage là, sur telle affaire, et qu'ils n'ont pas le temps de consacrer sur cette affaire. Donc c'est très long. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait faire en 3 mois, mais comme on le fait un après-midi par-ci, par-là, on met 2 ans à le faire, ce qui est insupportable pour les familles. La troisième chose, c'est l'absence de continuité de l'action de la justice. Le juge d'instruction, c'est celui qui dirige l'enquête. Et là, il y a eu un changement de juge, enfin des changements de juge, ou même des périodes sans magistrat à Quimper dans ces dossiers. La quatrième chose, c'est qu'on a du mal dans ces dossiers à convaincre les magistrats. Alors, les magistrats qui ne connaissent pas ces affaires criminelles, qui n'ont pas l'habitude de traiter des cold cases, de l'intérêt de réexaminer les scellés, de retravailler sur eux, de faire venir des experts pour dire voilà ce qu'on pourrait encore faire, ce qui est encore possible de faire ou pas. Et on a l'impression que parce qu'on a fait des choses il y a 15 ans, on ne peut plus rien faire aujourd'hui. Et ça, c'est l'intérêt de magistrats spécialisés, professionnels dans ce domaine. Je crois que il y a sûrement un peu de tout ça dans ce qui aboutit à un échec judiciaire. Cette femme a été tuée de manière horrible. Son agresseur ou ses agresseurs courent encore. Ça n'est pas supportable.
La famille Calvez, et notamment la sœur de Marie-Michel, Catherine Calvez, n'a, elle, rien lâché. Avec l'accord du parquet, elle avait même proposé en 1998 une prime de 300 000 francs à toute personne pouvant apporter des informations utiles à l'enquête. L'ex-capitaine Michel Alize reconnaît que cette initiative l'avait surpris, mais finalement n'avait pas perturbé l'enquête.
C'était pas d'usage courant, mais ça nous a pas perturbé. Encore faut-il pouvoir le gérer. Nous, à l'époque, on l'avait géré avec une ligne mise en place, dédiée, Et ça a fonctionné. On a entendu des gens, on a vu des gens, on a eu des informations qui sont venues pour la grande majorité compléter ce qu'on avait déjà fait. Mais ça a permis de conforter que le travail qu'on avait réalisé avait été bien fait ou qu'il restait des choses à investiguer. Mais nous, ça nous a perturbés. C'est un élément... on n'avait pas pris ça... je ne sais plus si ça avait été fait en concertation. Mais si, je crois que le rapport avec la famille et puis le magistrat instructeur, ça s'était bien fait et puis il n'y avait pas eu d'objection. Mais nous... aujourd'hui, je ne sais pas quelle portée ça pourrait avoir, mais bon, quand c'est bien géré, toute information est bonne à prendre et ça permet d'ouvrir ou de fermer des portes et de vérifier peut-être des choses qui nous parviennent pas.
Maître Didier Seban est lui plus partagé et veut plutôt croire que la nouvelle médiatisation de l'affaire, depuis qu'elle a été transmise au pôle des Colcaises à Nanterre, apportera de nouveaux témoignages. C'est ce qui est arrivé dans l'affaire d'Estelle Mouzin, cette jeune fille de 9 ans tuée par le couple Michel Fourniret et Monique Olivier.
Écoutez, on a souvent ce genre de choses dans des affaires, alors c'est plus un peu à l'américaine, hein, c'est dans les westerns, on voit ça. Moi, je ne l'ai jamais vu faire, j'ai jamais encouragé mes clients à le faire. Parce qu'on a souvent déjà des uluberlus dans ces affaires, des mages, des médiums. Donc là, on risque toujours d'avoir des gens un peu intéressés uniquement par la rançon, si j'ose dire, ou la somme promise. Donc moi, mais Mme Calvez avait décidé de le faire avant que nous intervenions dans ce dossier. Je ne sais pas si dans son idée, cette promesse perdure. Ce que je sais, c'est que moi, j'ai senti... avec la médiatisation nouvelle de cette affaire, avec l'intérêt porté à cette affaire, que des témoignages remontaient vers les journalistes, vers les journaux, on m'en a transmis, ou des informations remontaient. Écoutez, tout est bon d'apprendre. Il y a peut-être quelqu'un qui a su parce que il était en couple avec une personne, parlait avec l'agresseur, parce que ou les agresseurs, parce que il a entendu parler de telle ou telle chose. Il y a peut-être quelqu'un qui sait et qui pourrait faire avancer l'enquête. Donc oui, mon appel, c'est si vous savez, adressez-vous à la justice, au pôle des crimes non élucidés à Nanterre. À Mme Turquet, au greffe de Mme Turquet, écrivez-lui, ou si vous ne trouvez pas l'adresse, écrivez à mon cabinet, je le transmettrai immédiatement au juge. Un des éléments qui a permis de résoudre l'affaire Estelle Mouzin est intervenu 15 ans après sa disparition. C'est un témoin qui a été vérifié et qui a dit avoir croisé Michel Fourniret dans la station-service à côté de Guermantes, le connaître puisqu'ils étaient du même village, et ce témoignage a été assez décisif pour faire reprendre l'instruction. Donc 15 ans après... Quelqu'un qui n'avait pas considéré que cet élément était important s'est dit en voyant une émission de télévision, c'est important, je vais témoigner. Il a adressé son témoignage à l'association Estelle qui me l'a transmise et je l'ai immédiatement transmis au juge. Donc oui, certaines informations peuvent être utiles, même 30 ans après, parce que le temps a passé... peut-être certaines personnes sont décédées, peut-être quelqu'un a pu se libérer de l'influence de tel ou tel et veut dire des choses aujourd'hui.
Maître Seban aimerait que les scellés qui ont été conservés dans ce dossier soient réexaminés, notamment un ADN, mais aussi que la piste de l'ogre des Ardennes et de son ex-femme soit explorée. Monique Olivier, après tout, avait de la famille dans le Finistère.
C'est vrai que on a identifié, nous, puisqu'on connaît bien les dossiers de Michel Fourniret et de Monique Olivier, le fait qu'à plusieurs reprises, ils ont pu se rendre en Bretagne, parce que la famille de Monique Olivier vivait en Bretagne. Donc, est-ce que cette piste a été travaillée? Donc, on souhaite, en tout cas, qu'on puisse vérifier leur séjour, les dates de leur séjour, pour savoir si ça peut correspondre. Et puis, en plus, on le voit dans beaucoup de dossiers, ce sont des gens qui décidaient quelquefois de partir deux jours et qui, entre-temps, commettaient un méfait. Donc, c'est pas forcément à l'occasion d'un séjour de vacances que les choses auraient pu avoir lieu. Ces deux pistes nous intéressent particulièrement. La piste professionnelle n'est pas non plus complètement écartée, puisqu'elle avait un désaccord professionnel avec un supérieur hiérarchique à l'époque. Ça a été vérifié, mais est-ce que ça l'a été suffisamment? C'est les questions qu'on est amené à poser aujourd'hui au juge d'instruction. On a eu, depuis que cette affaire a été remédiatisée, aussi des signalements, des indications, des mises en cause de personnes de la région. Évidemment, il faut prendre tout ça avec circonspection. C'est pas parce qu'on vous dit c'est un tel que c'est évidemment un tel. Mais tous ces éléments, toutes ces dénonciations qui mettent en cause des gens violents dans la région, ainsi de suite, méritent d'être vérifiés.
L'ex-gendarme Michel Alize reste lui persuadé que le ou les meurtriers de Marie-Michèle Calvez sont des proches, des connaissances de l'assureuse, ou du moins des individus qui connaissaient très bien les environs. Il pense en premier lieu à l'ancien voisin de la victime, même si ses soupçons ne se sont jamais traduits par autre chose qu'une garde à vue. Cet homme, même décédé, reste donc présumé innocent. Pour autant, Michel Alize est convaincu que la vérité finira par jaillir.
J'ai toujours espéré, parce que quelqu'un de positif, hein. J'ai toujours espéré, et avec les collègues, on a toujours espéré que, comme je vous disais tout à l'heure, nous étions sur le pays Bigouna. Le pays Bigouna, on a vu, lorsqu'on réalisait nos investigations, on a vu des portes se refermer devant nous, et même les volets. Par contre, à chaque fois qu'on passait quelque part, le lendemain ou le surlendemain, on avait d'autres informations qui relataient notre passage dans telle ou telle maison, qui était souvent transformée. On a laissé de l'énergie là-dessus, puisqu'il a fallu aller vérifier, et ainsi de suite. Mais ça nous a toujours apporté quelque chose. Même les Bigounins, comme on disait, même s'ils nous fermaient la porte, ils nous ont apporté beaucoup. Maintenant, on est peut-être passé à côté de gens où on n'a pas su les aborder, il y a peut-être des choses, mais je pense qu'on a ratissé quand même très très fort cette région. On n'a pas trouvé. On est arrivé très très proche. On est arrivé, pour moi, ma conviction, c'est que Max est sans doute le principal auteur. Il y a une question que je me pose encore, il est parti, hein, mais on a entendu deux portes claquer sur le lieu du dépôt de la voiture. En interrogation, comment se fait-il qu'on n'ait pas trouvé un deuxième ou un troisième individu en plus de Max? Donc ça, c'est une interrogation. Et dans ce pays Bigoudin, d'autres gens connaissent Max et connaissent l'environnement. Peut-être qu'il y a encore des personnes qui sont sur place, qui sont en mesure de nous apporter quelque chose. Pour moi, la porte n'est pas fermée de ce dossier.
Recherche coupable, une série du Mur des podcasts d'Ouest France.